Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Le sujet de ce soir est intitulé « Jérusalem et le drame du temple ». Voilà un sujet d'une actualité brûlante. Jérusalem fait partie des villes les plus anciennes du monde. Jérusalem est plus âgée que 4000 ans et son histoire de gloire et de détresse est absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Aussi, la situation géographique de Jérusalem est unique. Jérusalem, qui se trouve à la jonction des trois continents, Europe, Asie et Afrique. Vous comprenez mieux pourquoi le prophète Ézéchiel 5:5 dit ce que Dieu lui a révélé. J'ai mis Jérusalem au milieu des nations et j'ai mis des peuples autour d'elle. Voilà une situation absolument unique. Et vous voyez également Jérusalem se trouvant à la jonction des grandes civilisations antiques, des Sumériens, des Égyptiens et des anciens Grecs. Une remarque concernant le nom de la ville. En hébreu, on prononce Yerushalayim, ce qui signifie en français la ville de la paix. Et vous voyez déjà là, donc, ce champ de tension entre nom et réalité. Car il n'y a aucune ville dans le monde entier qui met plus en question la paix du monde que la ville de la paix, Jérusalem. Le combat pour Jérusalem se concentre actuellement de plus en plus sur son centre. Voilà l'esplanade du temple à Jérusalem de l'Est. Et déjà il y a quelques années, le journal New York Times a écrit que ces quelques mètres carrés sont les plus explosifs de la planète. On se demande pourquoi. Depuis le 7e siècle après Jésus-Christ, se trouve ici la mosquée d'Omar, le dôme du roc, et la mosquée El-Aqsa. Dans l'hiérarchie de l'islam actuellement, cette esplanade avec ces deux mosquées occupe la troisième place dans l'hiérarchie des lieux saints de l'islam, après la Mecque et Médina. Et voilà, à la même place se trouvait pendant à peu près 1000 ans le temple juif, depuis le 10e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Et voilà deux mondes qui se rencontrent ici. On réalise aujourd'hui encore plus que la force explosive du Proche-Orient peut mettre en danger le monde entier. Donc la question de Jérusalem s'adresse à nous tous, mais pour comprendre ce qui se passe actuellement, j'essaie de raconter ce soir ce que les masses médias ne nous disent pas. Et pour cela, j'aimerais mettre l'actualité dans un cadre historique et nous retournons 3500 ans en arrière pour vraiment trouver les racines du problème. L'époque où le peuple d'Israël était en esclavage, en Égypte. C'est la période où les 10 plaies tombaient sur l'Égypte et ont détruit l'empire égyptien. Ce qui a ouvert le chemin au peuple d'Israël pour sortir à la liberté pour aller vers le pays promis. Ils sortaient de l'esclavage, le chemin passait par le désert du Sinaï et une station très importante était le mont Horeb, le mont où Israël a reçu la Torah, la loi de Dieu. La loi de Dieu, d'abord les 10 commandements, et ensuite des centaines de commandements qui expliquent les 10 commandements dans le détail. Très vite, Israël a réalisé, nous sommes incapables de vivre selon les exigences de Dieu. La Torah est en quelque sorte un miroir qui met à l'évidence le problème du cœur humain, la méchanceté, le péché dans le centre de l'être humain. Mais ce qui est intéressant, en relation avec le don de la Torah, Israël a reçu des instructions pour construire un temple portable, le tabernacle. Dans ce tabernacle se trouvait au centre un service avec des sacrifices. Lorsqu'un Israélite a réalisé qu'il a agi contre les commandements divins, il a péché, il avait la possibilité d'entrer dans ce temple, dans la cour, avec un sacrifice, un animal innocent. D'abord, il a dû imposer les deux mains avec force, il a dû confesser les fautes qu'il a commises, les péchés qu'il a commis, et ensuite, le coupable a dû tuer le sacrifice, et voilà le sacrificateur qui prend le sang, et ensuite, on a offert le sacrifice. Alors, dans le premier temps de l'existence de la nation d'Israël, on a appris les principes fondamentaux. D'abord, l'homme est incapable de vivre selon les commandements de Dieu. Deuxièmement, il y a une possibilité pour obtenir le pardon. Et cela, sur la base de la confession sincère du péché et sur la base de la mort d'un substitut innocent qui donne son sang. Voilà, j'explique maintenant l'histoire depuis l'Égypte jusqu'à Jérusalem. Voyez le chemin d'Israël depuis Ramsès et Pitom par la mer Rouge vers le mont Horeb où ils ont reçu la Torah, où ils ont construit le temple portable. Ensuite, pendant 40 ans, ils ont voyagé jusque là, dans la région de Moab, c'est à l'autre côté de Jéricho, avant d'entrer dans le pays promis, avant de traverser le Jourdain. Et là, Moïse, finissant sa vie, il a tenu 8 discours qui sont transmis dans le Deutéronome, le 5e livre de Moïse. Là, Moïse a expliqué les lois de Dieu qu'on a connues dans le désert pour la nouvelle situation dans le pays. Vous voyez ici la dernière station d'Israël avant de traverser le Jourdain, avant de conquérir Jéricho. Et là, dans les plaines de Moab, Moïse a expliqué comment ça va continuer avec les sacrifices, le service de Dieu. En Deutéronome 12, 13 à 14, nous lisons, gardez-vous d'offrir vos holocaustes, donc vos sacrifices, dans n'importe quel lieu que vous trouverez. C'est uniquement dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de vos tribus que vous offrirez vos holocaustes. Un seul lieu choisi dans le pays pour le service divin. Le Deutéronome mentionne ce lieu 21 fois. Donc 3 fois 7 fois. Ceux qui connaissent le symbolisme des chiffres, c'est intéressant. 7, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Mais le Deutéronome mentionne jamais le nom de ce lieu. Après la mort de Moïse, Israël est entré sous la direction de Josué dans le pays promis. Un pays qui ruisselait de lait et de miel. Vous voyez, c'est comme la Suisse. Et alors, on se mettait à chercher le lieu choisi par l'Éternel pour le culte, pour le temple. Et c'était vers 1004 avant Jésus-Christ que le roi David a conquis Jérusalem, une petite ville cananéenne, et tout de suite après, il a fait de cette ville la ville capitale d'Israël. Voyez, Jérusalem à la pente sud du mont du Sion. Voilà, là, le point culminant de cette montagne, le rocher qui se trouve aujourd'hui dans le dôme du roc, la mosquée d'Omar. Et par une révélation prophétique, David a compris que c'est ici le lieu choisi par l'Éternel, mentionné dans le Deutéronome. C'est pour ça, David a préparé tout pour construire un temple fixe sur cette montagne. Mais c'était seulement son fils Salomon qui a agrandi la ville vers le nord jusqu'au sommet, et sur le sommet, il a mis le premier temple, le temple de Salomon, qui était proverbialement magnifique et majestueux. Voilà, un lieu de culte comme un témoignage pour le seul vrai Dieu. C'est pour ça qu'Israël n'avait pas le droit d'avoir d'autres temples en d'autres endroits. Vous voyez, les païens, les peuples autour d'Israël, ils avaient beaucoup de dieux et aussi beaucoup de temples. Israël connaissait seulement le Dieu créateur, ils avaient seulement un temple. Mais vous savez, à la fin de sa vie, Salomon s'est détourné du seul vrai Dieu. Au lieu de vénérer seulement le créateur, il a commencé à vénérer la création, les forces cosmiques dans la nature. N'est-ce pas, il y a un parallèle avec un développement culturel en Europe et en Amérique du Nord actuellement. On a connu pendant des centaines d'années le seul vrai Dieu, le Créateur, qui ne fait pas partie de la création, mais qui est au-dessus de la création. Et aujourd'hui, on voit comme notre société se détourne volontairement de ce Dieu Créateur et commence à vénérer des forces cosmiques dans la nature. Voilà, c'est la même chose. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de prophètes qui sont venus et ils ont mis Israël en garde. Ils ont dit, vous devez retourner vers le seul vrai Dieu. Autrement, vous allez subir des conséquences fatales pour toute la nation. Et ils ont décrit dans le détail ce qui va arriver. Mais la masse n'a pas écouté. Et la prophétie annoncée s'est réalisée. Vers 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus. Ils ont conquis le royaume nord des 10 tribus d'Israël. Et ils les ont amenés en captivité. Ici, vous voyez une représentation authentique des Assyriens qui montre des soldats assyriens qui amènent des membres des 10 tribus d'Israël en captivité, en exil. Il reste encore les 2 tribus du sud, le royaume juif, mais ils n'écoutaient non plus les prophètes. Et voilà, vers 586 avant Jésus-Christ, l'armée babylonienne a détruit complètement Jérusalem et le temple de Salomon. Et les Juifs ont été amenés en captivité en Babylonie, en Irak actuel. Un peuple qui s'est détourné du seul vrai Dieu ne devait plus avoir le signe symbolique, le témoignage pour le seul vrai Dieu. Le peuple juif a été exilé vers les fleuves de Babylone et là, ils ont ressenti de nouveau un désir de pouvoir retourner à Sion, le mont du temple. Ici, vous voyez le palais sud de Nebuchadnezzar, le roi qui a amené Israël en exil. Saddam Hussein l'a reconstruit il y a quelques années parce qu'il s'identifie avec Nebuchadnezzar. Il croit que la mission de sa vie est de détruire Israël complètement comme Nebuchadnezzar l'avait fait autrefois. Alors il a commencé à rebâtir Babylone. À l'époque, lorsque les Juifs ont été exilés, il y avait aussi un jeune homme qui s'appelait Daniel. Et parce qu'il était d'une famille royale, il a été forcé à faire des études à Babylone pendant 6 semestres. Dans la Bible, c'est écrit 3 ans, mais c'est la même chose. Pour travailler après dans le service du roi. Et voilà, ce Daniel était aussi un prophète. À cette époque où Babylone était dans toute sa gloire et Jérusalem dans la poussière, il a prophétisé l'avenir de Jérusalem et aussi la venue du Messie, donc le sauveur promis de Dieu. Nous allons revenir à ça. Mais je vais expliquer. Le prophète Jérémie avait déjà, avant l'exil, dit « Le temps de Babylone durera seulement 70 ans et après les Babyloniens vont être jugés par Dieu. » Et effectivement, les Babyloniens ont pris le pouvoir mondial vers 608 avant Jésus-Christ et vers 538 avant Jésus-Christ, les Perses ont conquis la Babylonie. Et à cette époque-là, le roi Cyrus a donné la permission aux Juifs de retourner à Jérusalem et de rebâtir le temple. Des dizaines de milliers de Juifs sont partis de la Babylonie pour aller à Jérusalem. Et la première chose qu'ils ont fait, ils ont reconstruit l'autel des holocaustes exactement à l'emplacement de l'ancien. Et après, ils ont reconstruit le temple. De nouveau, exactement sur le carré de 500 sur 500 coudées. Exactement sur l'emplacement du premier temple. Ils ont fait le deuxième. Avant de reconstruire la ville, pourquoi c'était tellement important? Parce qu'on savait, il nous faut les sacrifices, le substitut pour nos péchés. Donc, vous voyez comme le pensée du sacrifice jouait toujours un rôle central dans le judaïsme biblique. Et seulement vers 445 avant Jésus-Christ, on a commencé à rebâtir les murs de Jérusalem et ensuite toute la ville. Et ce moment-là est très important pour nous. Parce que Daniel avait prophétisé, encore à Babylone, que depuis le moment où un édit sortira pour rebâtir et reconstruire Jérusalem, on peut calculer la venue du Messie, du Sauveur promis. On va revenir à ça, mais d'abord, j'insiste sur un ordre chronologique pour pouvoir bien suivre, donc pour des raisons pédagogiques. Et voilà une image du deuxième temple. Lorsqu'ils ont reconstruit le deuxième temple, on n'avait pas beaucoup d'argent. C'était pas du tout un temple splendide. Mais ce que vous voyez ici, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années avant la naissance de Jésus-Christ, vers 20 avant Jésus-Christ, le roi Hérode tyrannisait le peuple juif et il voulait se faire accepté par le peuple. Alors il a dit, je vous donne de mes richesses énormes, de l'argent, et vous pouvez élargir, agrandir le deuxième temple. Et voilà, dans cette époque, on a doublé l'esplanade du temple. On a même rempli la vallée de Bethesda au nord pour agrandir l'esplanade. Finalement, on avait une esplanade de 144 000 mètres carrés. C'était le plus grand sanctuaire de l'époque, dans le monde entier. Donc, vous voyez, il y a 2000 ans, Jérusalem a atteint finalement la plus grande gloire de toute son histoire. Elle était plus belle qu'à l'époque de Salomon. Mais je reviens à l'an 445 avant Jésus-Christ. Alors, à l'an 445, le roi Artaxerxès, le roi perse, a donné la permission pour rebâtir Jérusalem. J'ai dit, c'était le moment où duquel Daniel avait déjà parlé. Daniel 9, 25. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem sera promulgué, jusqu'à l'avènement du Messie, le prince, il s'écoulera 7 septennes et 62 septembre. Voyez le moment du décret pour rebâtir Jérusalem et le moment où le Messie arrive comme prince. Entre deux, il y a un espace de 7 et 62, donc 69, septembre. Le terme septembre, en hébreu Shavua, j'explique. Une septembre signifie ici une période de 7 ans. Et il faut savoir que les années prophétiques durent dans la Bible 360 jours. Alors, nous avons déjà calculé. 7 et 62 septaines font 69 septaines. Maintenant, calculer en années, 69 fois 7 ans égale 483 ans. Mais nous voudrions être un peu précis. 69 fois 7 fois 360 jours fait 173 880 jours. Et voilà. L'édit d'Artaxerxès a été donné et sorti dans le mois juif Nissan, c'est mars-avril, 445 avant Jésus-Christ. Et quand est-ce que Jésus, s'il est vraiment le Messie, s'est présenté à Jérusalem comme prince? C'était d'une seule fois. C'était le dimanche de Palmier, dans quelques jours avant la crucifixion, où il est entré sur un âne à Jérusalem et la foule l'a salué comme Messie, roi d'Israël. Selon les évangiles, on peut calculer cette date. C'était également au mois de Nissan, mars-avril, 32 après Jésus-Christ. Et vous pouvez faire le calcul combien de jours se trouvent entre ces deux dates, et vous pouvez exactement placer sans problème les 173 880 jours. Donc on peut effectivement prouver par les Écritures que Jésus est le Christ. Christ, c'est le terme grec pour Messie, Mashiach en hébreu. On peut prouver. Voilà, à l'an 32 après Jésus-Christ, Jésus est entré sur un âne depuis le mont des Oliviers. Il a traversé la vallée du Cédron. Il est entré dans la ville. Ensuite, il est entré au deuxième temple. Et il était proclamé par la foule comme Messie roi. Mais Daniel a plus de détails. Nous continuons. La ville sera rebâtie et rétablie pendant les sept premières septennes, donc 49 ans, avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. Et effectivement, vous pouvez lire le livre de Néhémie qui montre comme ces années de ce temps, cette période de la reconstruction de Jérusalem était une période où Israël était tout le temps en danger des ennemis. Après cette période, il y avait les 62 septennes. Et le prophète nous dit, après les 62 septennes, qui ont suivi les premiers sept, le Messie sera mis à mort. Il n'aura rien. La prophétie a dit exactement au bout des 7 et 62 semaines, le Messie viendra comme prince. Et après, il sera mis à mort. La prophétie ne dit pas combien de temps après. Mais dans la rétrospective, nous pouvons actuellement dire, oui, 5 jours après dimanche des palmiers, Jésus-Christ a été crucifié par les Romains. Il était d'abord devant le Sanhédrin, la plus haute cour de justice en Israël, dans le portique royal qui couronnait la place du Temple au sud. Et là, le souverain sacrificateur, Caïphe, a condamné Jésus comme faux Messie à la mort. Et il a été livré aux Romains. Donc, le Messie a été condamné à la mort dans le temple, dans la place des sacrifices. Les Romains l'ont donc crucifié sur le rocher de Golgotha, juste dehors la porte du jardin de Jérusalem. C'était une ancienne carrière qu'on ne pouvait plus utiliser, alors on a crucifié Christ dans cette carrière. Il n'aura rien. Et la prophétie continue. Ensuite, le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. C'est un choc pour Daniel. Parce qu'il a prophétisé que Jérusalem sera rebâtie. Et on pourrait calculer la venue du Messie, mais après il a dû prophétiser et la ville sera de nouveau détruite. Et aussi le temple. Donc Daniel savait que le deuxième temple va être détruit juste après la mort du Messie. Jusqu'au temps de la fin. Il y aura des dévastations et des guerres. À l'an 70, les Romains ont détruit complètement Jérusalem et le deuxième temple. L'historien juif du premier siècle, témoin oculaire de l'époque, a écrit « Plus qu'un million de juifs a été tué dans cette guerre terrible de 140 jours. » Et nous avons lu, il y aura une chaîne des dévastations et des guerres jusqu'au temps de la fin, le terme technique de la prophétie, temps de la fin, signifie dans la Bible la période où le peuple juif retournera d'un exil mondial dans son pays. Et voilà, c'est intéressant pour nous, parce que nous sommes témoins oculaires que du fait que dans notre époque historique, le peuple juif est retourné du monde entier, des cinq continents du monde, dans le pays des ancêtres. Donc, ce terme, la fin des temps, a quelque chose à faire avec notre période. Nous allons voir maintenant, est-ce qu'il y a eu une chaîne de dévastation et de guerre sur Jérusalem depuis la crucifixion du Messie jusqu'à aujourd'hui? Et voilà les événements les plus importants. Nous avons déjà vu l'an 70, destruction de Jérusalem, plus qu'un million de morts parmi le peuple juif. 132, conquête par Bar Kokhba, un faux messie, qui a essayé de faire la révolte avec le peuple juif contre les Romains. Mais, 3 ans plus tard, 135 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien a abattu cette révolte d'une brutalité incroyable et Jérusalem a été détruite de nouveau et voilà encore une fois plus qu'un million de morts parmi le peuple juif. 614, conquête par les Perses. 638, conquête islamiste. Vous voyez, c'est au début de la période islamiste. Mahomet est mort 622. Et quelques années plus tard, les Arabes musulmans, qui sont devenus musulmans, sont allés vers le nord, ils ont conquis la Palestine, ils ont conquis Jérusalem. Et dans la suite, quelques années plus tard, ils ont construit la mosquée d'Omar, exactement sur l'emplacement de l'ancien temple juif. Et là, elle se trouve jusqu'à aujourd'hui. 1071, conquête de Jérusalem par les Turcs. 1099, conquête par les croisades. 1187, conquête par le sultan Saladin. 1244, conquête par les Tatars, les sauvages de l'Asie centrale. 1517, conquête de Jérusalem par les Turcs. Et 1917, pendant la Première Guerre mondiale, conquête de Jérusalem par l'Angleterre. Et 1948, juste après la fondation de l'État juif moderne, Jérusalem de l'Ouest a été défendue par Israël, mais Jérusalem de l'Est, avec le mont du Temple, a été conquise par la Jordanie et annexée. Mais 1967, la guerre des six jours, conquête de Jérusalem de l'Est et du mont du Temple par Israël. Et vous savez, on peut continuer jusqu'à notre jour. Donc, les dévastations et guerres continuent à Jérusalem. Mais la prophétie de Daniel s'est accomplie à la lettre pendant les millénaires jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais aller en arrière, à l'époque où Israël était encore dans le désert du Sinaï. Car Moïse avait déjà prévu cette période catastrophique d'Israël après le rejet du Messie. Et nous lisons quelques versets dans le Lévitique, le 3e livre de Moïse, 26-31, où Dieu dit « Je réduirai vos villes en ruines, je détruirai votre sanctuaire, je n'accepterai plus vos sacrifices, je dévasterai votre pays, je vous disperserai parmi les nations païennes, et je vous poursuivrai avec l'épée. » Et chaque prophétie s'est accompli à la lettre pendant les 2 millénaires passés. Et voilà, le pays d'Israël, qui était un pays qui ruisselait de lait et de miel, dans un processus de centaines d'années, est devenu un désert total. Le point culminant était le 19e siècle. Mark Twain a visité la Palestine en 1867, et il décrit le pays. Il dit, il est guère peuplé. C'est un pays qui n'a rien qui soit aimable pour les yeux. C'est un pays sans perspective, brisé, sans espérance. Palestine au 19e siècle. Et le peuple juif, depuis l'an 70, a été dispersé dans un processus de centaines d'années dans tous les 5 continents du monde. Et le prophète Osée, au 8e siècle avant Jésus-Christ, 3 verset 4, dit « En effet, les Israélites resteront pendant de longs jours sans roi et sans chef, sans sacrifice, sans effort. » Est-ce pas une description touchante de cette période de 2000 ans où Israël n'était plus une nation? Pendant de longs jours, effectivement, sans chef, sans roi, et aussi sans sacrifice. Nous allons revenir à ça. Après cela, ils reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté à la fin des jours. Il y aura un changement. Israël sera seulement pendant une longue période sans état. Mais il y aura un changement. Ils chercheront finalement l'Éternel et David, leur roi. Un commentaire rabbinique très important. Metsudat David explique quant à ce verset, le terme David le roi est un terme qui dessine le Messie. Alors,
s'ils retourneront dans les derniers jours vers le Messie, ça veut dire qu'il y avait dans la période d'avant un problème avec le Messie. Maintenant, nous avons atteint un point fondamental dans notre présentation. Nous pouvons maintenant voir dans l'ensemble l'histoire de 3500 ans d'Israël et nous avons vu l'importance du sacrifice et du temple pour Israël. Sur cette base, nous pouvons diviser toute l'histoire en deux périodes. D'abord, une période de plus que 1600 ans, la période des sacrifices, depuis Moïse jusqu'à Titus, le Romain qui a détruit le deuxième temple à l'an 70 après Jésus-Christ. Une petite interruption, nous avons vu, il y avait l'exil babylonien. Mais depuis, une autre période de plus que 1900 ans, la période sans sacrifice, où Israël n'a plus de temple, depuis l'an 70 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. Et nous voyons clairement qu'il y a eu un tournant fondamental au premier siècle. Alors, on se demande pourquoi le sort d'Israël a changé fondamentalement au premier siècle. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette période? Une chose très grave, une chose encore plus grave que de vénérer des faux dieux. Et nous savons depuis la prophétie de Daniel, le premier siècle devait être la période où le Messie sera mis à mort. Et depuis là, nous avons ce tournant. Ce sont des faits historiques. On ne peut rien changer à ces faits. Et maintenant, la question, pourquoi ils n'ont plus eu de temple et de sacrifice? Et voilà ici les explications extérieures historiques. Depuis le 1er jusqu'au 7e siècle, on a à Jérusalem la période des Romains et des Byzantins. Et les Romains et les Byzantins, en général, étaient absolument contre un temple juif sur le mont Sion. Depuis le 7e jusqu'au, maintenant il faut dire 21e siècle, nous avons à Jérusalem la période islamique. Et les musulmans sont absolument contre l'idée de la construction d'un temple juif sur l'esplanade du temple, qui pour eux est de la troisième importance après la Mecque et Médina. Alors, voilà pourquoi les juifs n'ont plus eu de sacrifice. N'est-ce pas? Il y a d'autres mètres carrés sur notre planète. Et peut-être on trouverait à Paris une place pour offrir au peuple juif, pour construire un temple. Mais on ne peut malheureusement pas accepter. Parce que la Torah a dit seulement à l'endroit où Dieu choisira. Il y a seulement cet emplacement. Autrement, c'est impossible. Alors, le peuple juif dans la détresse depuis 2000 ans. Mais on se demande, quant à la mort de Jésus-Christ, quelle est sa signification? Et déjà, le Tanakh. Dans le peuple juif, on appelle l'Ancien Testament le Tanakh. On trouve la réponse. La signification de la mort du Messie. Le Messie devait venir pour mourir comme un sacrifice d'animal. Et voilà le prophète Ésaïe, au chapitre 53, explique cela. Et il faut expliquer que les anciens rabbins, les grands rabbins il y a 2000 ans et plus tard, ils ont expliqué que Ésaïe 53 parle du Messie et de sa mort. Et il faut savoir que seulement au Moyen-Âge, on a, dans le judaïsme en général, changé cette interprétation. Mais dans le Talmud, l'œuvre fondamentale de la théologie juive, on trouve toujours l'explication, ce chapitre parle du Messie. Je peux vous montrer les passages. Je lis quelques versets. On l'a frappé. Vous voyez, c'est le passé prophétique, comme on appelle ça dans la grammaire hébraïque. On décrit un événement futur comme si c'est déjà accompli pour insister sur la sûreté de l'accomplissement. On l'a frappé. Il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement dans les portiques royales du temple. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants?
il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il prolongera ses jours. Voilà, le Messie devait vivre de nouveau, être ressuscité.
Bien sûr, il y a eu des gens très intelligents qui ont dit, oui, peut-être cette prophétie a été écrite après la crucifixion de Christ, et on a mis ce texte dans le rouleau d'Isaïe, comme si c'était une prophétie. Mais depuis l'an 1947, on a trouvé des rouleaux à Qumran, vers la mer Morte, c'est plus possible de dire des choses comme ça. Voilà, on a trouvé un rouleau complet d'Ésaïe, qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et j'ai contrôlé le texte intégral d'Ésaïe 53 qui trouve. La prophétie a été donnée avant, elle s'est accomplie à la lettre après. Et effectivement, il y a eu plus que 500 témoins oculaires. Le troisième jour après la crucifixion, le troisième jour, le Messie Jésus est ressuscité. Il est allé avec les disciples, finalement, sur le mont des Oliviers, et il a donné le mandat pour la mission mondiale. En 4 points. Acte 1, verset 10. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Voilà, le message de la paix, le message de la mort du Messie qui est mort pour nos péchés, à notre place, pour nous apporter le pardon, devrait être annoncé dans le monde entier. Juste avant la coupure, je viens d'expliquer le mandat mondial de la mission du Messie. Le message du Messie n'est pas pour un seul peuple, mais pour les peuples du monde. Il est remarquable que pendant les 2000 ans passés, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Messie Jésus, le message de la paix avec Dieu, le message du pardon, a été apporté dans tous les 5 continents du monde, chez toutes les nations. Très tôt, la bonne nouvelle, l'évangile est venu en Europe et les témoins venant de l'Orient ont expliqué « Arrêtez de vénérer les forces cosmiques dans la nature. Détournez-vous vers le seul vrai Dieu, le Créateur, et il peut vous pardonner parce qu'il a envoyé son Fils, le Messie, Jésus, qui est mort à la place de nos péchés. » Et des millions, dans les 2000 ans passés, en Europe, ont compris ce message, l'ont reçu dans leur cœur. Bien sûr, il y a aussi eu des millions qui seulement ont reçu cet évangile extérieurement. C'est très dommage. Mais je veux parler du côté positif. Le message a atteint des tribus indigènes dans le monde entier et des millions de personnes ont appris à connaître ce que c'est la paix avec Dieu. Le message est venu a été apporté jusqu'aux Indiens, en Amérique, chez les Chinois. D'ailleurs, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 80 millions de Chinois qui sont des chrétiens dans la clandestinité, dans des assemblées, dans des églises de maison. Seulement en Chine, 80 millions. Donc plus que des membres du Parti communiste, ils ont seulement 40 millions. Et voilà, le message a atteint même les extrémités de la terre. La Bible, au moins partiellement, est traduite dans plus que 2200 langues différentes. Et le message de la paix par la mort du Messie, on peut l'avoir sur cassette dans plus que 5000 langues et dialectes. Le message a atteint le monde entier. Et pendant cette même période, le peuple juif a été dispersé dans tous les 5 continents. Et le peuple juif a été caractérisé par cette image. Le juif qui part de ghetto en ghetto. Le juif haï et persécuté. Et ce qui a tenu ensemble le peuple juif pendant les 2000 ans passés
c'était le désir de Sion, de retourner un jour vers le mont du temple pour rebâtir le temple, pour bâtir le troisième temple. Et vous savez, chaque an, en printemps, lorsqu'on fête dans les familles juives, Pessah, la Pâque, on pense à l'époque de l'Exode de l'Égypte et on pense en même temps, un jour, Dieu va nous sauver et faire sortir de toutes les nations pour nous amener dans le pays promis. Comme autrefois, il a amené par Moïse le peuple de l'Égypte aux terres promises. À la fin de chaque Pâque, on se salue en famille avec la parole « Leshana Haba à Birushalay » l'an prochain à Jérusalem. Et voilà, ça on a fait à New York, à Paris, en Tunisie, au Maroc, et voilà, l'an prochain, on a de nouveau fêté la Pâque, et à la fin, on s'est salué. Le Shenaaba, Birushalay. Et voilà, des centaines d'années sont écoulées. Des milliers d'années. Et rien n'est passé. Le peuple juif a été persécuté dans le monde entier. Et voilà le bilan, depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui. À peu près 13 millions de morts. Mais les prophètes, le Tanakh, l'Ancien Testament l'a clairement dit, psaume 147, 2, l'Éternel rebâtira Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ou encore, le changement est venu depuis l'an 1882. Retenez ce chiffre. Voilà, à cause des persécutions en Russie, une première vague de juifs est retournée en Palestine. Et après cela, une deuxième vague, en hébreu, on appelle ça Aliyah, une deuxième Aliyah, une troisième Aliyah, etc. Jusqu'à aujourd'hui, des millions sont retournés. Ézéchiel, au VIe siècle avant Jésus-Christ, a prophétisé la voix de Dieu, « Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous amènerai dans votre pays. » Et ce qui était jamais possible, dès 1882, c'est devenu possible. Et en 1948, l'État d'Israël moderne a été fondé. Après presque 2000 ans. Mais il faut être au clair que les guerres les plus terribles de l'histoire mondiale, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ont joué des rôles clés dans ce rétablissement de la nation juive. Pendant la Première Guerre mondiale, les Turcs, les Ottomans, se sont mis à la côté des Allemands. Et c'est pour ça que les Français et les Anglais ont attaqué l'Empire dans le Proche-Orient, des Ottomans, et ils ont conquis toute cette région. Et pendant la Première Guerre mondiale, 1917, les Anglais ont promis aux Juifs d'établir un État juif en Palestine. Mais vous savez, après la guerre, il n'y avait plus rien de cette promesse. Et il y avait la Deuxième Guerre mondiale, avec la destruction de 6,5 millions de Juifs. Et après cette guerre, la multitude des nations du monde ont eu une telle pitié avec le peuple juif qu'ils ont en 1947, en novembre, voté dans le rassemblement de l'ONU pour l'établissement d'un État juif en Palestine. Même que les pays islamiques ont dit jamais, on n'accepte jamais sur ce territoire un État juif. On va le détruire dès le début. Mais sous cette impression de la destruction des nazis, la multitude a voté oui. Mais sans la Deuxième Guerre mondiale, sans cette destruction de Juifs en Europe, c'était impossible l'établissement d'un État. Donc, les pires guerres du monde, de l'histoire humaine, ont joué des rôles clés. La déclaration de Balfour, pendant la Première Guerre mondiale, a déclaré, vous voyez ici, « His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for a Jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. » À peu près en français, le gouvernement royal le considère avec faveur. Donc, l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Et ils ont même promis de se donner toute la peine pour finalement réaliser ce but. Ils ont écrit en Palestine. Mais il faut savoir ce que le terme Palestine désignait à l'époque. C'est ici. Tout ce territoire, c'était la Palestine. Donc, Israël d'aujourd'hui, avec tous les territoires occupés et toute la Jordanie, ça, c'était la Palestine. Mais après la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas encore l'ONU, c'était la Société des Nations, ils ont décidé de donner aux Arabes palestiniens ce territoire pour établir un État arabe palestinien. La Transjordanie, et après on a nommé ça la Jordanie. Avec ça, on a donné 80% de la Palestine aux Arabes palestiniens. Il n'y a pas une ethnie qui soit palestinien. On appelait tous les habitants juifs et arabes dans cette région palestinienne. Vous savez, c'est pour ça que, par exemple, un journal juif s'appelait The Palestine Post, ou l'orchestre symphonique juif s'appelait The Palestine Symphony Orchestra. Parce que juifs et arabes étaient palestiniens. Et voilà, après la Première Guerre mondiale, 80% on a donné pour un État palestinien arabe. Et si on parle aujourd'hui de l'importance de créer un État palestinien, on devrait dire, mais on l'a depuis les années 20, du siècle passé. Et il prend presque toute la Palestine. Et voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU a voté oui. La majorité a voté oui pour un État juif. Mais on n'a pas donné les 20% qui restaient, mais seulement ce qui est clair ici. Vous voyez? Donc, on a donné encore une fois seulement la moitié, 10%. Et il faut savoir que tout ce territoire ici-là au sud, c'est le désert du Negev. Vous savez, moi, j'ai jamais fait du service militaire. Mais sans le faire, je sais que c'est absolument impossible de vouloir protéger un tel territoire. C'est du non-sens, n'est-ce pas? Impossible. Vous voyez avec ces petits corridors ici. Impossible. Et il n'y a aucune profondeur, n'est-ce pas? Et les Juifs ont dit oui, alors on prend ce qu'on reçoit. Et les États islamiques ont dit non. Jamais. On va détruire dès le début un tel État. Pourquoi? Il faut connaître l'islam et la théologie islamique. La théologie islamique divise le monde entier dans deux territoires. Le premier s'appelle en arabe Dar ul-Islam. C'est le territoire de l'islam, conquis par l'islam. Et le reste s'appelle Dar ul-Harb, le territoire de l'épée. C'est-à-dire le territoire qui doit encore être conquis par la guerre ou par les mariages. Oui, parce que un musulman a le droit de se marier avec une non-musulmane, juive, chrétienne, mais jamais une femme musulmane a le droit de marier un chrétien, un juif et autres. Parce que dans le passé, on a fait l'expérience que pour conquérir des territoires au Proche-Orient qui étaient encore chrétiens, ça marchait très bien. De faire des mariages mixtes, mais toujours l'homme et le musulman. Voilà. La Palestine, c'est quoi? C'est Dar ul-Islam. Et la théologie islamique dit que c'est impossible que Dar ul-Islam soit dominé par des non-musulmans. C'est inacceptable. Des juifs et des chrétiens ont le droit de vivre sous la domination musulmane dans Dar ul-Islam, mais jamais autrement. Donc, il ne s'agit pas si c'est tout le territoire ou seulement un mètre carré, c'est simplement impossible que des juifs dominent sur Dar ul-Islam. C'est pour ça qu'on a dès le début dit on va détruire ça. Et voilà, le 14 mai 1948, l'État a été fondé et le 15, sept nations islamiques se sont jetées sur Israël pour détruire la nation. Et on n'avait pas encore
des armes lourdes, et voilà des armées officielles. L'Irak, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte et des contingents du Soudan et encore d'autres nations se sont jetés sur Israël. Et après un an et demi, Israël a gagné. Mais 1% de la population a été tuée. C'était une guerre affreuse, la guerre d'indépendance. Mais après la guerre, le territoire était plus grand qu'avant. Les petits corridors n'existent plus. Ils sont élargis. Mais après quelques ans, la guerre de Suez, de nouveau, c'était pas possible de détruire Israël. Dans toute cette question, il faut encore insister sur le fait que l'ONU a décidé que Jérusalem de l'Est, avec le mont du Temple, avec Sion, ne fait pas partie de l'État juif. Alors, qu'est-ce que c'est un sionisme sans Sion? C'est comme une femme, une belle femme sans yeux. Ma femme sans yeux, ce serait terrible. Alors, on se demandait, mais comment le peuple d'Israël va retourner à Sion? Parce que les prophètes ont dit, ils vont retourner. Personne ne le savait. Et voyez, Jérémie 31 dit, nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Donc même à Paris. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et continuez à lire verset 12. Il retournera au mont de Sion et chanteront des cantiques de joie. Tiens, personne ne pouvait expliquer comment. On ne savait pas. Dans les années 60, Abdel Nasser, le président de l'Égypte, a fait construire cet hôtel, parce que c'est un hôtel important. Et là, il a rassemblé l'hiérarchie islamique pour déterminer la destruction totale d'Israël. J'ai vu une fois un coca ici devant, mais j'avais un drôle sentiment. Donc c'était Alexandrie. Alors là, on a décidé la destruction totale d'Israël. Et ensuite, par les mass médias, on a annoncé que maintenant, le sang d'Israël va couler et on va jeter les Juifs à la mer. Et Israël a vu, maintenant, il s'agit seulement encore de notre existence. Et Israël a fait, dans les jours du juin 67, le premier coup. La guerre des six jours. Et l'Ouest a pensé, maintenant c'est fini avec l'État juif. Mais on ne savait pas que pendant les premières heures de la guerre, pratiquement toute la force aérienne des ennemis a été détruite par terre. Parce que, dès le début, des avions israéliens sont allés en Égypte, en Syrie, jusqu'en Irak, et ils ont détruit un avion après l'autre qui était garé. Avant que les officiers sont venus avec le bus aux aéroports, et après quelques heures, Israël a eu la force aérienne supérieure. Mais ça, on ne savait pas à l'époque. Ensuite, Nasser, de l'Égypte, il a téléphoné au roi Hussein, en Jordanie. Il a dit, c'est incroyable les succès que nous avons contre les Juifs. Tu dois aussi entrer en guerre depuis d'un côté. Et alors Israël a dit au roi Hussein, si toi tu entres en guerre, tu subiras des conséquences très graves. Mais Hussein, il a cru le message de Abdel Nasser, il a commencé depuis Jérusalem de l'Est de bombarder Israël. Et voilà le troisième jour, un groupe des parachutistes israéliens ont reçu l'ordre, le mont du Temple, Jérusalem de l'Est. Et voilà, mercredi, troisième jour, ils sont montés sur le mont du Temple, ils l'ont conquis. Après 2000 ans, le peuple juif est retourné à Sion, à l'emplacement du Temple. Voilà ceux qui ont conquis le mont du Temple. Et je vais lire un verset du psaume 126. Je sais lire dans les ténèbres. Le psaume 126, quantité de gré. Quand l'Éternel rétablit le sort de Sion, nous étions comme ceux qui y songent. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait des grandes choses pour ceux-ci. L'Éternel a fait des grandes choses pour nous. Nous avons été réjouis. Voilà, retour au mur des lamentations, qui est encore un reste originel du deuxième temple. J'en parlerai demain. Et voilà une parade après la guerre. Après six jours, les ennemis sur tous les trois fronts ont été abattus.
le septième jour, le sabbat même, il y avait le repos. Une nation a survécu. Et voilà une parade après la guerre, une parade de reconnaissance à Jérusalem pour le fait qu'Israël a pu survivre. Une parade au ciel, voilà l'étoile de David, le signe du Messie et de sa rédemption pour Jérusalem. Pendant ces 6 jours, Israël a conquis la bande du Gaza et tout le désert du Sinaï. Et la Cisjordanie, en fait, on devrait dire Samarie et Judée, sont les termes bibliques pour cette région, Cisjordanie et le Golan, en 6 jours, et Jérusalem avec le mont du Temple. Après la guerre, on a dit, il faut faire de la paix. Et on peut faire de la paix si Israël donne du territoire. Alors Israël a fait de la paix avec l'Égypte et ils ont donné tout le désert du Sinaï. 80% des territoires occupés. Vous savez, après il y avait encore la guerre de Yom Kippour, on a essayé de détruire Israël. De nouveau, ce n'était pas possible. Après la guerre du Golfe, et ensuite on a dit, maintenant le grand motto après la guerre du Golfe, c'est territoire pour la paix. Israël donne les territoires et après ils reçoivent la paix. Et voilà, 1994, Arafat et Rabin ont fait la paix à Washington. Et peu après, il a fait, Arafat, un discours dans une mosquée en Afrique du Sud. Et j'ai lu le discours entier. On pouvait aussi le lire sur Internet. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait une paix kouraïchite avec Israël. J'explique, il faut connaître la doctrine islamique. N'est-ce pas? Mahomet a voulu à son époque conquérir la Mecque avec le sanctuaire central des Arabes. C'était impossible. Alors il a fait un contrat de paix avec les gens, les kouraïchites, la tribu dominante de la Mecque. Il a fait de la paix pour 10 ans. Et après 2 ans, il a vu, maintenant j'ai assez de force pour conquérir. Il a rompu le contrat, il a fait la guerre, il a conquis la Mecque. Et depuis, dans la théologie islamique, le terme « la paix kouraïchite » veut dire, en fait, il est interdit de faire la paix avec les ennemis. Mais lorsqu'on ne peut pas vaincre l'ennemi, on peut faire la paix jusqu'au moment où on a la force pour le vaincre. Alors, il a dit juste après ce contrat, c'était une paix kouraïchite. Le problème, c'est pas le territoire. Parce que si vous voyez seulement les territoires arabes et le Soudan, ça fait déjà une comparaison avec Israël, 1 divisé par 575. Il y a assez de territoires. Mais on ne peut pas supporter que des juifs dominent dans Dar ul-Islam. C'est tout simple. Après la guerre des 6 jours, Moshe Dayan, dans une geste de paix, il a dit aux nations islamiques, vous pouvez continuer à rester sur le mont du Temple. Mais, malgré tout, le mont du Temple nous appartient. Alors, c'est pour ça que les musulmans ont reçu le droit de continuer librement leur religion sur l'esplanade du Temple. Et Israël s'est contenté de rester ici devant le mur de lamentation, un reste originel du mur extérieur du deuxième temple. Et là, il prie pour la reconstruction du troisième temple. Mais il y a quelques jours maintenant, Husseini de Jérusalem, donc le grand mufti, il a édit une fatwa. Une fatwa, c'est une décision juridique en islam. Et celui qui va contre une fatwa doit subir la mort. Et la fatwa dit, toute l'esplanade du temple appartient à l'islam, tout le mont du temple et aussi le mur des lamentations. Tout. Donc, aucune possibilité pour faire un compromis. Parce que, à ce moment-là, on va contre l'islam et on doit subir la mort. Mais on comprend que depuis 67, dans toujours plus de cœurs juifs, il y a eu le désir de reconstruire le temple. Après 2000 ans. Voilà, c'est pas mon frère aîné, c'est Rabbi Yisrael Ariel. C'était un des parachutistes qui a conquis le mont du Temple. Et en 1988, il a fondé le Mechon Hamikdash, l'institut du temple, où on prépare actuellement des ustensiles pour le service des sacrificateurs au troisième temple. Donc pas des maquettes, mais des vrais. Voilà. Le chandelier d'or préparé pour le troisième temple. Et une multitude d'autres ustensiles, je les ai vus avec mes propres yeux. C'est pas une conversation. Une autre organisation, Adral et Yoshna, ils ont construit la maquette du troisième temple, vous pouvez lire, Der Temple, Degenbait Fishi, la même chose à peu près. Et si vous regardez à travers les fenêtres derrière, votre regard tombe sur l'esplanade du temple, où dans le milieu, il y a le voûte d'or de la mosquée d'Omar. Le plan selon Ézéchiel, le troisième temple des derniers temps. Une autre organisation s'appelle Ateret Kohanim, la couronne des sacrificateurs. Et là, on forme des Israéliens qui sont des descendants du souverain sacrificateur Aaron pour offrir les sacrifices. Comment on peut savoir si on est un descendant d'Aaron? Par exemple, si on s'appelle Kohen. Kohen, en hébreu, veut dire sacrificateur, prêtre. Donc, on a transmis dans les familles par le nom de la famille, cette connaissance. Ou Kohn, Kahan et Kokut et autres. Lévi sont de la tribu des sacrificateurs, de Lévi, ou Lévin, Lévinski et autres. Alors, on les forme déjà. Voilà, c'est Salomon Gershon. C'était aussi un des parachutistes qui a conquis le monde du temple. Même qu'il était invalide depuis les années 50, il était dans ce troupe parachutiste. Alors, vous voyez un peu son caractère. Il a fondé l'organisation des fidèles du monde du temple et ils ont préparé la première pierre pour le troisième temple, qui a été préparée seulement avec des petits cailloux sans ustensiles de fer. Il pèse 4 tonnes, il provient du Negev et ils ont essayé déjà 3 fois de l'apporter sur les sonates du temple. Et c'est difficile. C'est d'ailleurs difficile déjà d'apporter une Bible. Une fois, je suis monté au mont du temple avec une petite fille de moi et la police israélienne me retient et ouvre mon rucksack. Vous comprenez le rucksack, n'est-ce pas? Sac au dos. Et ils ont trouvé ma Bible hébraïque. Ils ont dit, impossible, vous ne pouvez pas monter. Avec une Bible, on ne peut pas monter. Alors j'ai dit, je peux la laisser ici? Non, non, non. Alors, je vais aller évacuer la Bible, je suis revenu, ils m'ont ouvert de sac au dos. Pas de Bible hébraïque? Oui, vous pouvez continuer, mais ne priez pas. Donc, voyez, Israël a annexé le mont du Temple en 1940. Mais, on n'a pas le droit, comme non-musulmans, d'apporter une Bible sur le mont du Temple ou de prier. Mais la prophétie biblique parle clairement d'un troisième temple. Maintenant, vous me demandez, mais comment cela va se passer? Et bien sûr, avant 67, vous aurez pu me dire comment Israël va retourner au mont de Sion. On ne sait pas. On sait qu'Israël va retourner parce que les prophètes l'ont dit. C'est la même chose. Le jour va venir. Demain, je vais montrer les travaux les plus récents sur le mont du Temple, où on a exactement localisé où se trouvait l'emplacement du Temple, le lieu très saint, etc. Mais je vous dis donc sur cette esplanade. Mais vous voyez, ça pose un problème. Si un troisième Temple est bâti sur l'esplanade du Temple, ça va mettre en colère plus qu'un milliard de musulmans du monde entier. Voyez la prophétie biblique. Nous avons déjà appris ce que c'est les 69 semaines d'Étienne de Daniel, jusqu'au Messie. Après, le Messie est mort. Ensuite, la ville a été détruite. Le peuple juif a été dispersé dans le monde entier et le message de la paix a été annoncé dans le monde entier. Le moment va venir dans cette période où Israël revient dans son pays, que Dieu va enlever tous les vrais croyants de l'Église. Tous ceux qui ont vraiment reçu le Seigneur Jésus comme sauveur. Et après bien, la plus grande catastrophe de l'histoire humaine, qui dure encore 7 ans. C'est pas, Daniel a parlé de 69 semaines et il a parlé aussi d'une 70e semaine. Et à la fin, le Messie vient comme roi des rois. Et voilà, la prophétie nous explique, cette période est divisée en une demi-septaine et une demi-septaine. Donc, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et la prophétie dit que dans cette période, le troisième temple va être reconstruit à Jérusalem. Et maintenant, nous voyons comme on est sur le chemin pour la reconstruction du troisième temple. La Bible dit, dans cette période, après l'enlèvement, il y aura un réveil en Israël. Le résidu juif va reconnaître par les Écritures que Jésus était quand même le Messie. Et il y a plus que 300 prophéties, je les ai comptées une à une, plus que 300 prophéties se sont accomplies à la lettre en Jésus-Christ, touchant le Messie. Donc un réveil. Mais la Bible nous dit, c'est également la période de l'Antéchrist. C'est le plus grand faux Messie de toute l'histoire juive. Dans le passé, il y a déjà eu une quarantaine. Mais le pire viendra. Le Seigneur a dit au conducteur juif en Jean 5, 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Celui qui rejette la vérité est ouvert pour recevoir le mensonge. » Et l'Antéchrist va mettre une idole qui parle dans le troisième temple pour rendre impur le temple. Donc, lui sera un ennemi de ces juifs croyants qui recommenceront à sacrifier au temple tout en sachant que ces sacrifices parlent du sacrifice, symboliquement du sacrifice du Messie. Ésaïe 53. Et le Seigneur dit en Matthieu 24, « Quand donc vous verrez l'idole abominable annoncée par le prophète Daniel s'établir sur la place du temple, celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus. On ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. N'est-ce pas? Après 3 ans et demi, l'Antéchrist met cette idole dans le temple. Et les 3 ans et demi qui suivront seront la pire des périodes de toute l'histoire humaine. Et si Dieu n'aurait pas décidé de réduire le nombre de ses jours à 3 ans et demi, toute l'humanité sera exterminée. Et voilà, le mont du Temple sera donc la raison de la catastrophe mondiale. Mais seulement depuis le moment où la majorité en Israël va recevoir le faux Messie. Pas avant. Pas par la construction du troisième temple. Dieu va garder son peuple. Seulement lorsque la majorité accepte le faux Messie. Zacharie 12, j'arrive à la fin. De Jérusalem, je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui l'entourent. Une coupe enivrante, c'est une coupe d'alcool. Si on boit trop, on ne peut plus penser objectivement. Donc Jérusalem sera dans les derniers jours, pour tous les peuples qui l'entourent, une coupe enivrante. Et cela, nous voyons déjà maintenant. On appelle à la guerre sainte à cause de Jérusalem. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour toutes les nations. Cette expression, très lourde pierre, mamasa en hébreu, se trouve seulement dans ce passage, et désigne une pierre lourde que les jeunes gens, à l'époque, ont utilisé pour mesurer les forces entre eux. Des forts ont amené la pierre jusqu'au ventre, les meilleurs, jusqu'à la tête ou au-dessus de la tête. Mais attention si on a laissé tomber la pierre. Et c'est exactement la même chose. Voici en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour toutes les nations, donc pour mesurer les forces militaires. Et quiconque essayera de la lever de terre en sera tout meurtri. Alors en ce jour-là, j'entreprendrai de détruire toute nation qui viendra pour combattre contre Jérusalem. Jérusalem sera bouleversée. Et voilà, Zacharie 13 nous dit Quant à cette période, alors dans le pays entier, l'Éternel le déclare, les deux tiers des humains seront exterminés, les Juifs. Seul un tiers survivra. Et je ferai passer ce tiers-là par le feu, où je l'épurerai ainsi qu'on épure l'argent. Je l'écouverai comme on éprouve l'or. Ce tiers m'invoquera et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Lui, il confessera, l'Éternel est mon Dieu. Les prophètes, par exemple Daniel et autres, nous expliquent que la Syrie, en tête de beaucoup de nations, vont faire une attaque depuis le nord et vont dévaster tout le pays d'Israël. Et deux tiers de la population juive sera exterminée. Mais un tiers survivra. Une catastrophe. Joël 2 dit, devant cette armée, le pays est comme le jardin d'Éden. Et après, tout est brûlé. Et ensuite, le Messie reviendra sur le mont des Oliviers, qui est à l'est du mont du Temple. Zacharie 14. L'Éternel sortira et combattra ses nations. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Sur cette montagne où le Seigneur Jésus a donné le mandat pour la mission mondiale, comme sauveur du monde, il reviendra comme juge du monde. Et le peuple juif, qui dans cette détresse, reconnaît le Messie. Comment il réagira? Zacharie 12, verset 10. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. C'est écrit dans la Bible juive. Ils porteront le deuil pour lui. Comme on porte le deuil pour un enfant unique. Ils pleureront sur lui, tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Le pays tout entier célébrera ce deuil, chaque famille à part et ses femmes à part. Un deuil sur quelqu'un qui est devant eux vivant. Et le Talmud de Jérusalem dit que ce verset parle du Messie. Et qu'est-ce qu'ils vont prier? Ils vont prier Ésaïe 53. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait faire son propre chemin. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui les fautes de nous tous. Il y a aujourd'hui à peu près 350 000 Juifs dans le monde entier qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Il est faux de dire, les Juifs ne croient pas que Jésus soit le Messie. Il y a des Juifs qui ne croient pas, il y a des Juifs qui croient. Il y a des Français qui le croient, et il y a des Français qui ne croient pas. Et actuellement, il y a plus de Juifs qui viennent à la connaissance du Messie que des Français, des Suisses ou des Allemands. On estime que depuis les années 60, à peu près 100 000 Juifs ont reconnu le Messie Jésus. Et pour la plupart, ce passage Ésaïe 53 est un passage clé. Mais pourquoi ça ne devrait pas être aussi un passage clé pour des non-juifs? Parce que sur le même fondement, si on est juif ou non-juif, on peut seulement recevoir la paix avec Dieu. On peut mettre son propre nom dans ce passage, mais c'est pour les péchés de Roger qu'il a été percé. C'est pour les fautes de Roger qu'il a été brisé. Il faut s'approprier ce texte. Et seulement à ce moment-là, on vivra la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Le principe reste toujours le même, depuis le commencement jusqu'à la fin. Il nous faut un substitut innocent qui meurt pour nos péchés. Jésus-Christ établira son royaume de paix et de justice depuis Jérusalem, sur le monde entier. Donc la paix pour le monde viendra. Mais avant, le monde doit passer par la plus grande catastrophe. Jésus-Christ est venu la première fois pour régler le problème de nos péchés. Et il va venir une deuxième fois pour régler tous les autres problèmes du monde, pour apporter la paix et la justice. Mais tous ceux qui n'ont pas la paix avec Dieu vont être effacés. C'est pour ça que Dieu a mis jusqu'à aujourd'hui 2000 ans entre deux pour annoncer à chaque être humain le message que nous pouvons venir nous approcher de Dieu en Jésus-Christ et recevoir la paix avec Dieu. Et voyez, Jérusalem, Yerushalayim, la ville de la paix, offre effectivement la chance pour chacun pour obtenir la paix. Mais cette même ville est aussi l'origine pour la plus grande catastrophe. Vous voyez, Jésus-Christ, soit il est notre sauveur, soit il sera notre juge. Il faut choisir. La ville de Jérusalem nous explique, il faut choisir. Et Moïse dans la Torah a dit, choisis la vie afin que tu vives. Merci.